Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous êtes fatigué, la rentrée vous a essoré. Allez au cinéma, vous n'avez pas le moral, l'automne vous donne le cafard. Allez au cinéma, vous dis-je. Au choix, ce mois-ci, nos experts en salles obscures vous proposent Nos Batailles, actuellement à l'affiche de Guillaume Senès. La Strada, qui n'est plus à l'affiche depuis plus de 50 ans, mais que vous trouverez aisément. Chef-d'œuvre de Federico Fellini. Et Léon Sciorritti de Saint-François d'Assise, chef-d'œuvre spirituel, s'il en est. De quoi entrer dans le rythme plus lent et profond de l'automne. Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le thème de cette émission ce matin, donc rendez-vous cinéma apprécié, je le crois et je l'espère, des auditeurs, avec donc autour du plateau Louis-Marie Solaire, donc monsieur cinéma de Radio Présence, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, donc animateur de Session Cinéma au sein des Cotopaïs et Centre Spirituel Jésuite dans le Sud-Ouest, et donc tous les deux animateurs de ce ciné-parole, ciné-débat en lien avec le cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai à Toulouse, qui a lieu très prochainement, on va en parler. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Alors je l'ai dit donc, et je donnerai les dates du Ciné-Parole, qui est donc mardi prochain, je donnerai ça avant chaque pause. Trois films, comme à chaque fois, Nos Batailles, La Strada et Léon Sciorritti de Saint-François d'Assise. On va commencer par Nos Batailles, peut-être avant qu'on écoute la bande-annonce, comment vous introduiriez ce film, Louis-Marie Solaire?
C'est l'histoire d'un homme qu'on voit se débattre dans son entreprise. Il est militant, il est chef d'équipe dans cette entreprise qui est, on voit un hangar qui pourrait être quelque chose qui ressemble à Amazon. On fait des achats en ligne. Donc il est là dans cette entreprise, il s'occupe de cette équipe avec beaucoup de ferveur et de conviction. Et ça lui prend beaucoup de temps et chez lui, il a une femme qu'il aime.
Laura.
Et il a deux enfants, un garçon qui a une petite dizaine d'années et une fille qui a 6 ans. Et du jour au lendemain, sa femme va disparaître.
Voilà, on va écouter la bande-annonce.
Ok les enfants, vous êtes pas habillés?
T'as pas préparé les vêtements?
Putain, on y va là, oh Elliot, tu peux m'aider?
Pourquoi on met pas mon pull koala?
Je ne vois pas les koalas là, c'est quoi? C'est ça?
C'est pas moi!
Ramène ta soeur là! Fais gaffe au pied, le pied.
T'as des nouvelles?
Non.
Vous vous êtes engueulé?
Non.
Elle allait pas bien?
Je sais pas, maman. Olivier, elle est... Elle s'est barrée, en fait. Non. Enfin... Non, c'est... Bah, quand même. Ça va?
Mais oui, et toi?
Faut juste que je m'organise avec les enfants, quoi. C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps.
Tu es pas là?
Je suis là. J'ai pas raconté, on l'a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas.
Oh mon Dieu!
C'est les mains du magicien, c'est pour dans quelques
c'est
jours.
C'est quoi, magicien?
Et ça? Des graines de trèfle à quatre feuilles, parce que le trèfle à quatre feuilles, après, tu peux faire
mais
des vœux.
Quand même, ça peut me faire peur.
Mais carrément.
Ça y est, mon Dieu. Ah, tu m'étonnes que ce soit pas vrai.
Ton père non plus, il a pas vu grandir ses enfants.
Mais t'étais là, toi?
Moi, j'étais là, mais j'avais envie de me barrer.
Voilà, Nos Batailles, donc, de Guillaume Senès. Donc, c'est Olivier, sa femme s'est barrée, comme ils le disent dans le film à plusieurs reprises. Et donc, ce père de famille qui se bat et qui doit assumer son quotidien. Louis-Marie, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce réalisateur, Guillaume Senès, donc franco-belge? J'ai vu qu'il avait fait un autre film, semble-t-il, qui a connu un certain succès, qui est son premier long-métrage, Keeper.
Keeper, c'était, comme son titre l'indique, mais pour les néerlandophones, puisque ce réalisateur est belge. Belge francophone, mais tous les Belges pratiquement parlent les deux langues. C'est-à-dire le français et le néerlandais. Et donc, keeper, ça veut dire gardien de but. Donc c'était l'histoire d'un jeune homme qui était écartelé avec une paternité trop précoce et le fait d'une carrière débutante dans le football. Il voulait devenir footballeur professionnel. Et cette fois-ci, Guillaume Senèse s'est inspiré de sa propre expérience, de sa vie personnelle, puisqu'il a vécu une séparation douloureuse. Pas de la même façon que celle qu'il décrit dans le film, mais néanmoins, c'est ça. Et avec sa scénariste, Raphaël Desplechin, il a écrit cette histoire qu'on peut juger d'un intérêt assez classique. Hein, des histoires comme ça, on en a déjà vu au cinéma. Mais il l'a mis en scène avec une efficacité discrète, mais alors particulièrement juste, comme le ton aussi, et pour arriver à dérouler le fil de cette histoire, dont le personnage central est inévitablement ce père de famille, Olivier. Mais il faut bien avouer que les deux enfants sont extraordinaires. Là, on dit toujours la difficulté de mettre en scène des enfants au cinéma. Et quand on voit des enfants au cinéma, on peut tomber à côté. Les réalisateurs disent toujours qu'il y a deux choses très difficiles avec lesquelles il est très difficile de tourner. Ce sont les enfants et les animaux. Mais pas pour les mêmes raisons.
Romain Duris, qui joue Olivier, célèbre acteur. Je dirais juste deux, trois critiques, peut-être pour continuer d'introduire le propos. Le Parisien, ce drame de Guillaume Senèse traite de manière juste les scènes domestiques et la violence du quotidien. Le Figaro, un film moral d'une grande bonté qui montre des gens justes avec précision. Et le Nouvel Observateur, l'empathie et l'émotion grandissante que suscitent nos batailles sont d'autant plus fortes que ni la mise en scène en caméra portée, ni Romain du risque de presque tous les plans ne les traque. Pourquoi c'est un beau film, Paul Dima?
Parce que il est très bien conduit, très bien monté et avec un rapport assez surprenant, même si le sujet est presque banal à la limite. Mais tout est dans la façon de le traiter et d'être interprété. Alors, au niveau de l'interprétation, Guillaume Senèse a joué sur l'improvisation, c'est-à-dire que lui a écrit, mais il faisait jouer les acteurs, et en particulier les enfants, en leur faisant improviser sur la trame qu'il avait construite, ce qui donne une étonnante fraîcheur, et on croirait que ça se passe devant nous, quoi. Or, c'est joué, mais magnifiquement joué. La force du film aussi, c'est l'équilibre qui a été trouvé entre le fait de mêler les deux mondes, le dedans et le dehors. C'est la chronique d'une famille ébranlée, mais aussi la solidarité qui se joue dans le milieu du travail. Et il n'y a pas de jugement. On ne sait pas pourquoi la femme est partie, et on ne le saura pas jusqu'à la fin du film. Et quand on dit « elle s'est barrée », ça paraît l'accuser, mais non. C'est pas une accusation. Elle est partie parce qu'au début, on la sent fragile. Et puis alors, le film commence par un drame. On peut le dire parce que ça commence dès le début
du film.
C'est
dès le début du film.
Hein? Il y a un des ouvriers de cette société type Amazon qui va être viré parce qu'il est trop vieux, pas assez performant, pas assez, etc. Et lui, il veut le défendre.
Donc Olivier, Romain Duris.
Olivier Romain Duris va le défendre. Et puis, en fait, le gars lui demande, bah, alors ça y est, on va me virer et tout. Il dit non, voilà. Et ce monsieur se suicide. Et alors, est-ce que c'est une des raisons du départ de la femme aussi, cette fragilité? Elle-même s'écroule dans un magasin, elle est vendeuse. Et il y a une femme qui vient acheter quelque chose, une robe à 35 euros.
65.
Et son paiement est refusé, et on est le 12 du mois, et la vendeuse, jouée par la femme d'Olivier, tombe.
Parce qu'elle est plus mal que la femme qui ne peut pas payer.
Qui ne peut pas payer.
Donc comme vous disiez, Louis-Marie, hein, on l'aura deviné, j'ai pas vu ce film, mais vous l'avez vu, heureusement. C'est pas la première fois qu'il y a un film sur un divorce, hein,
sur une séparation.
Voilà. Qu'est-ce que vous diriez du coup de sa tonalité et qui fait qu'il a été autant salué. Voilà, c'est une fable contemporaine qui rejoint beaucoup
de gens. Oui, parce qu'il tombe pas dans l'excès. Je disais qu'il était juste, c'est exactement ça. On voit, on partage les moments de doute, les moments de désespoir, les moments de colère de tous ces personnages, en particulier d'Olivier, mais des autres aussi. Parce que les enfants doivent eux aussi faire avec l'absence de leur mère. Ils ne comprennent pas, parce que leur mère les aimait. Et ils ne comprennent pas pourquoi elle est partie. Et puis il y a des moments de drôlerie quand même, de la tendresse, énergie. Heureusement qu'il y a cette sœur extraordinaire qui débarque à un moment, Betty, qui emmène tout sur son passage, la sœur d'Olivier, et qui est là, quelque chose de, qui fait d'une certaine façon, qui commence à lui ouvrir les yeux, parce qu'il comprend pas, il se trouve pas responsable, Olivier, de la situation. Et c'est là la pudeur avec laquelle Senèse le suit, c'est qu'on voit le cheminement de cet homme qui va finir par comprendre. Bah oui, c'est de sa faute si elle est partie quand même.
C'est-à-dire qu'il découvre à ce moment-là qu'il était tellement pris par son travail et l'accompagnement des employés, des ouvriers dont il avait la responsabilité, qu'il n'était pas du tout présent à sa famille et que sa femme devait en souffrir terriblement. Et ça, il le réalise peu à peu. Il le découvre aussi par sa mère, parce que une mère qui est magnifique, parce que, et ça remonte à son père. Il dit mais toi t'es toujours resté. Oui, mais j'ai eu envie de me barrer. Moi,
c'est une réplique fameuse. Hein,
on l'entend dans la bande-annonce, et la bande-annonce donne une bonne image du film. Mmh. Les bandes-annonces, c'est toujours à double tranchant, mais celle-ci donne une bonne idée de ce qu'on va trouver dans le film et du ton du film et des personnages. Parce qu'il y a, on le disait, Romain Duris qui est remarquable, les deux enfants sont remarquables, mais les autres second rôle, Laetitia Doge qui joue la sœur d'Olivier, Laure Calamy qui joue une de ses collègues, elle aussi syndicaliste et remarquable, ils sont tous très très bien, très justes.
Voilà, Nos batailles de Guillaume Senès. On va écouter justement, Louis-Marie, c'est quoi ?
C'est la chanson qu'on écoutait sur la bande-annonce et qui clôt le film. Et d'un côté assez positif, il fait découvrir la démocratie à ses enfants, et il y a une très belle chose, et on reste là, et cette musique convient très bien aux dernières images du film.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, donc émission cinéma, notre rendez-vous mensuel, deuxième émission depuis cette rentrée. Autour du plateau, donc Louis-Marie Soler, producteur de l'émission pardon, de cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, accompagnateur de retraite et de session, entre autres avec les Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest, pour commentaires et lecture de films, et donc tous les deux animateurs donc, du Ciné-Parole. Oula, il faudra que je pense à bien donner la date avant la prochaine pause. Donc, deuxième film, chef-d'œuvre humaniste, La Strada de Federico Fellini, film splendide, film italien sorti en 1954. Je vais essayer de résumer l'intrigue et puis on va écouter un premier extrait et je vous laisserai après développer. C'est l'histoire donc d'une jeune femme, j'allais dire une jeune fille, Gelsomina, une fille lunaire, j'ai lu dans un commentaire, qui est achetée par un certain Zampano, qui est un rustre forain ambulant, qui est spécialisé dans les tours de force et qui gagne sa vie comme cela. Et c'est un peu la relation étonnante, mélange de maltraitance, d'amour et de rachat qui se développe entre ces deux personnages qui sont comme deux figures symboliques, hein, un petit peu de ce qui traverse le cœur de l'homme ou de ce qu'on peut trouver dans l'humanité. On va juste écouter un premier extrait donc de ce film. C'est quand Zampano vient rencontrer la mère de Gelsomina pour tout simplement l'acheter.
Oh, que je suis malheureuse! Mais je t'ai prévenu, Zampano, elle n'est pas comme Rosa. Celle-là, la pauvre, elle n'est pas méchante, elle fera tout ce que tu lui diras. Elle a l'air un peu drôle, mais si elle mange tous les jours, peut-être qu'elle changera. Tu vas quitter ta vieille maman. Tu vas aller avec Zampano. Il t'apprendra un métier, toi, tu lui gagneras des sous. Puis ça fera une bouche de moins à nourrir à la maison. Ah, ma petite Gelsomina. Il est gentil, Zampano, tu sais, il t'aimera bien. Tu pourras faire le tour du monde, danser, chanter. Et puis, tu vois ce qu'il m'a donné, Gelsomina. Il m'a donné 10 000 livres. Regarde, voilà, 10 000 livres. Avec ça, je pourrais te réparer le toit. Les pauvres petits auront un peu à manger. Ah, ton père, pourquoi il nous a abandonné, ton père, Gelsomina? Tu es déjà grande. Tu n'as jamais encore travaillé. C'est pas ta faute, ma pauvre petite, si tu n'es pas comme les autres. Oh, tu veux bien l'aider un peu, ta maman. Avec lui, tu apprendras un métier. Pas vrai, Zampano?
Ah oui, sûrement que je finirai par en faire quelque chose. Bon, les enfants, allez donc chercher un saucisson, une livre de fromage et deux bouteilles de vin. Je suis comme ça, moi. Tenez, dégrouillez-vous, les gosses.
N'oubliez pas le pain.
Voilà, j'avais souvenir qu'il y avait de la musique, mais non, il n'y en a pas. Donc ça introduit et ça dit bien, peut-être, évidemment, l'aspect dramatique de ce film. C'est difficile d'introduire un film comme ça. Peut-être peut-on commencer, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et ils sont peut-être nombreux, à décrire le physique ou le visage de Gelsomina. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans. À un moment, on verra, on étendra un autre extrait. On lui dit qu'elle a une tête d'artichaut.
C'est une tête d'artichaut et un clown triste.
Une femme simple,
ouais.
Voilà, qui a un visage assez enfantin.
Tout rond.
Voilà, et redécrivez peut-être un peu plus et puis ce qui symbolise.
Elle sourit pratiquement tout le temps. Elle ne sait faire que ça. Hein. Il lui a appris en panneau à sourire parce que c'est comme ça qu'elle attire le public. Parce que c'est un numéro de cirque ambulant, forain. Il s'arrête dans les villages pour gagner quelques sous.
Et elle lui sert donc de bonne à tout faire. Quoi.
Exactement.
Et de faire valoir aussi.
De faire valoir, elle attire les spectateurs. Mais c'est vrai qu'elle a cette tête-là, on l'appelle la tête d'artichaut. Hein, et, mais c'est quand même la grande Giulietta Massima qui était déjà l'épouse de Federico Fellini et qui l'est restée jusqu'à la fin.
Alors tout le film, donc, ils partent, on suit en fait l'aventure de Zampano et donc de cette femme. Ils vont de village en village et donc lui donc, fait des tours de force comme vous disiez. Il a des chaînes autour du poitrail qui fait claquer et Gelsomina le suit cas un cas. Il va jusqu'à être violente avec elle. Hein. Peut-être une ou deux, c'est un chef d'œuvre. Hein. Je suis tombé sur certaines critiques. Les cahiers du cinéma, avec une terrible impassibilité, Fellini nous laisse au seuil des élans inattendus de ses personnages. Le Monde, c'était le cahier du cinéma. Pardon, Le Monde, c'est un film qui console de bien des déceptions. C'est un film qui nous raffermit dans notre conviction que le cinéma est un moyen d'expression unique, etc. etc. Peut-être avant qu'on aille plus loin, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre selon vous, Paul Dima?
Fellini n'est pas n'importe qui.
Tous les films de Fellini sont des chefs-d'œuvre, c'est...
Pratiquement.
Oui.
Oui, on peut dire qu'ils sont tous des chefs-d'œuvre.
Alors, il a renouvelé complètement le cinéma italien de l'époque. Enfin, il s'inscrit, mais aussi en rupture avec le néo-réalisme du cinéma italien. Et là, on voit bien que des...
Alors, juste en deux mots, le néo-réalisme du cinéma italien, qu'est-ce que c'est ?
C'est le cinéma d'après-guerre. Qui s'attache à montrer la condition assez misérable du peuple italien, les difficultés économiques, etc., dans lesquelles il se bat.
Il faut noter qu'ils avaient perdu.
Hein. Eh oui.
Ils avaient perdu la guerre.
Oui, donc c'est la déconfiture à tous les niveaux. Hein. Et qui veut rendre compte de cette réalité-là. Et on le voit bien dès la séquence d'entrée.
On entend le bruit de la mer. Hein. Donc c'est une famille au bord de la mer.
Et c'est une mère qui
vit dans une grande misère.
Qui vend sa fille parce qu'elle a besoin de nourrir les autres enfants. Elle n'a pas de moyen de le faire. Et, alors cette Gelsomina, elle est presque simplette. Mais en même temps, on découvre qu'elle a une... pas seulement une légèreté, une finesse intérieure qui va se révéler progressivement et se fait rabrouer par le grand Zampano, mais qui a une relation aussi brutale, mais qu'on sent aussi, il est enfermé dans sa stature. Et c'est très intéressant parce que le numéro de cirque qu'il fait est tout à fait métaphorique. De ce qu'il est. Il est enfermé dans les chaînes qui oppriment son cœur et faut pas raconter la fin, mais le numéro de cirque consiste à gonfler les muscles pour faire péter les chaînes. Mais c'est pas ce qui va se passer dans l'histoire.
Alors peut-être sur l'aspect symbolique de ces deux personnages. Voilà, Zampano, c'est à la fois, on va dire... l'homme, un peu marginalisé, qui se bat, c'est à la fois l'homme méchant, hein, il la cogne, hein, Gelsomina. En même temps, on sent parfois de la tendresse chez ce personnage. Qu'est-ce que vous diriez de la caricature que représentent ces deux personnages? Est-ce que c'est deux personnages symboliques et du coup, il y a quelque chose comme une fable qui se joue?
Oui, c'est manifestement à travers cette histoire-là de... La strada, c'est leur cheminement sur la route, quoi. C'est leur road movie en triporteur improbable et leur tour de cirque qui marche plus ou moins. Donc, ils vivotent aussi de leurs choses. Et ils rencontrent aussi un troisième personnage, Il Matto, le fou, qui est à la fois funambule. C'est un peu comme un ange qui se promène entre ciel et terre. Ce funambule est un peu bizarre parce qu'il aime se moquer de Zampano, ce que Zampano ne supporte pas du tout. Et en même temps, il est très, par rapport à Gelsomina, plein d'attention et lui raconte des choses qui la font rêver.
Voilà,
il a besoin d'affection,
oui.
Une affection énorme. Que Gelsomina lui rend.
Zampano, vous parlez, hein.
Oui, bien sûr,
de Zampano. Il est incapable de lui rendre.
Et incapable de se rendre compte qu'elle l'aime.
Ouais. On va écouter un deuxième extrait. C'est donc une discussion entre Gelsomina et donc ce fou, hein, qui fait figure un peu comme une forme de satire, et de la conversation de ces deux-là au moment où Gelsomina est au désespoir.
Et puis j'ai une voiture, de beaux costumes et tout, vraiment la belle vie. Ça te plairait pas? Dis. Bon, rien à faire. Toi, tu es faite pour vivre avec Zampano, pour admirer les inepties de ce gorille, moisir dans la crasse et la pouillerie et recevoir des coups pour tout salaire. Quelle cruche. C'est ça, la vie. Voyons, si Zampano te garde avec lui, c'est que tu lui sers à quelque chose. Dis, qu'est-ce qu'il a fait quand tu as voulu te sauver?
Rien, il m'a battu. Ah.
Mais enfin, pourquoi te garde-t-il? C'est étrange. Moi, je ne me serais jamais embarrassé de toi, ou non, pas même une journée. À moins que... Est-ce qu'il t'aimerait pas?
Comme Pano, m'aimer?
Sûrement, il est comme un animal. Il vous regarde, il voudrait parler, mais il ne sait pas. Alors il fait comme un chien, il aboie.
Pauvre. Ouais.
Eh oui, pauvre homme. Si tu ne restais pas avec lui, qui resterait? Tiens. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais tu vois, dans l'univers, tout sert à quelque chose. Si tu prends ce petit caillou, par exemple.
Lequel?
N'importe lequel, celui-là. Eh bien, il sert à quelque chose, même ce petit caillou.
Et à quoi?
Comment veux-tu que je le sache? Si je le savais, tu sais qui je serais?
Qui?
Dieu, celui qui sait tout. Quand tu dois naître, quand tu dois mourir, qui peut savoir ça? Non. Je ne sais pas à quoi il peut servir, ce petit caillou. Mais il sert sûrement. Parce que si ce petit caillou ne servait à rien, alors... Les étoiles non plus. Du moins, c'est mon idée. Même toi, tu sers à quelque chose. Oui, toi, avec ta tête d'artichaut.
Voilà, un magnifique extrait donc de La Strada de Federico Fellini. Vous êtes toujours sur Radio Présence et donc c'est l'émission Vivante Église, émission cinéma. Je dis que l'extrait était un peu long, peut-être certains nous prennent en cours de route. Il y a dans Gelsomina, évidemment, quelque chose d'assez christique aussi. Je pense entre autres à René Girard et à sa théorie du bouc émissaire, hein, qui, alors résumé René Girard en une phrase, mon Dieu, quel défi, mais qui, voilà, cette, on va dire, anthropologue. Qui a souligné que le Christ avait pris en fait la place de l'homme rejeté, hein, de celui qu'on appelle le bouc émissaire, qui est propre à toutes les traditions à travers l'histoire, et qui en assumant en fait cette place, en prenant la place de l'innocent, en fait renverse l'histoire et voilà, et traverse tout ça avec amour. Cette femme, c'est on dirait un peu le ravi de la crèche aussi. Elle a un cœur, voilà, dans cette scène, c'est il y a que de l'amour dans le cœur de cette femme. C'est...
Absolument. Et en même temps, elle pose des questions naïves et en même temps, elle donne des réponses d'une profondeur surprenante. Quand le funambule lui dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait quand Zampano, quand t'as essayé de partir ?» Elle dit en pleurant « Il m'a battu ». Et il lui explique bah, « il est comme un chien, hein, il sait pas dire, alors bah, il aboie ». Et la réplique de Gelsomina « Le pauvre homme ». Voilà, et ça dit tout de... Voilà, et continue, et elle comprend pas dans quoi il l'emmène quand il dit, tu vois ce petit caillou, ben lequel? Bon, ben il en prend un.
Dans l'évangile, Jésus dit, il faut que vous redeveniez comme des enfants, il y a quelque chose dans, voilà. dans la pureté de ce cœur qui ressemble à ça.
C'est... Elle a cette pureté-là, et... ouais.
Alors, je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire, non, Louis-Marie, sinon j'enchaîne.
Oui, c'est cette histoire-là, c'est l'histoire de Zampano, de Gelsomina et des autres personnages qu'il croit, El Mato, en fait, c'est une métaphore. C'est comparer le cirque avec la vie et les rôles de scène, eh bien, c'est s'entremêle et entre on voit tout se mélange, donc la métaphore de la vie, le cirque, Gelsomina, Zampano, lui qui voit pas son affection et qui finalement ne peut pas se passer d'elle parce que c'est son faire-valoir, mais il sait pas trop, c'est toujours un peu trouble. Il montre Il Mato, le fou, il est fou, mais il a tout compris, lui, il a compris Zampano, mais rien n'y fait.
Alors, il y a peut-être un autre commentaire que ça peut nous inspirer avant qu'on fasse une deuxième pause et après qu'on parle donc des 11 suréthites de Saint-François d'Assise. Il y a d'ailleurs comme une forme de lien entre les deux, hein, on le verra. Ce que je trouve frappant, c'est que Zampano, bon, évidemment, c'est un personnage qui est quand même globalement extrêmement antipathique. Et dans nos vies, en pensant parfois à nous-mêmes ou à des personnes que l'on connaît ou à des choses que l'on lit dans l'actualité, etc., on peut se désespérer qu'un jour, certains hommes ou soi-même, on finisse par... dire avoir le cœur qui s'ouvre et ouvrir son cœur à, on va dire, à l'amour ou à la grâce, je sais pas comment est-ce qu'il faut nommer ça. Et cet homme, alors pardon de raconter la fin, enfin vous pouvez faire ça avec délicatesse, voilà, il y a quelque chose qui le renverse, et c'est un film du coup qui est très grave mais qui porte une espérance très profonde, Paul Dima.
Oui, tout à fait. On peut raconter quand même.
Allons-y, c'est notre spécialité.
oui, mais ça permet de bien lire l'histoire et de la comprendre. C'est-à-dire que, à un moment, Zampano met dehors.
Elle devient quasiment folle aussi. Hein, c'est...
Oui, alors elle devient folle parce que Zampano a tué le fou. Enfin, il ne voulait pas le tuer, mais il est mort au cours de la bataille. Et Gelsomina est inconsolable. Elle déprime. Et puis elle s'en va. Et enfin, il la laisse. Et puis, 5 ans après, Zampano, qui fait son tour de cirque toujours, mais un peu déglingué aussi. Enfin, il ne le fait plus avec la langue qu'il avait.
Il n'a plus de conviction.
Il a plus... Voilà, il ne fait plus son bonimenteur de foire qui attire les foules. Enfin, c'est un peu tristoun. Et puis, tout d'un coup, il entend la musique que jouait Gelsomina pour introduire son numéro de cirque.
Numéro
il s'adresse de trombone et il dit à la femme, mais comment tu connais ça? Ah, mais il dit, mais c'est une femme qui était... Elle est morte maintenant. Et alors, là, Zampano découvre qu'il a il est responsable, en quelque sorte, de ce qui s'est passé pour Gelsomina, qui n'a pas pu vivre sans lui. Et qui...
Il fait face à sa conscience.
L'a quitté. Il est face à sa conscience. Est-ce qu'il faut raconter la dernière scène ou pas?
Peut-être de manière elliptique. En tout cas, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette scène, pardon, c'est que c'est quand même très rare au cinéma de voir un homme qui fait vraiment face en vérité à lui-même. Oui. Et en plus, c'est une scène muette. Enfin, je veux dire, il parle pas, quoi. C'est...
Lui, il n'y a pas de parole.
On va les mettre bougrement sur la voie en disant ce qu'avait écrit André Bazet, le grand critique de cinéma, que La Strada, c'est l'histoire d'un homme qui apprend à pleurer.
Voilà, écoutez, c'est bien, ça fait une excellente chute. La Strada, donc de Federico Fellini, comme je le disais en souriant en début de l'émission, film de 1954, mais évidemment qui se trouve assez facilement. On peut le louer ou on peut l'acheter. On va écouter. Qu'est-ce qu'on écoute?
Le fameux air de La Strada, la fameuse trompette.
Extraordinaire.
Et alors, il est à noter que Fellini a toujours travaillé avec Nino Rota. Il y avait la grande comparaison, il y a eu beaucoup de compositeurs de musique de films italiens, mais les plus célèbres sont Nino Rota et Ennio Morricone. Et Nino Rota avait cette légèreté que Morricone n'a pas, c'est toujours grandiloquent la musique de Morricone. Celle de Nino Rota, elle est sautillante comme celle qu'on va entendre.
On va l'écouter. Alors juste, pardon, je l'ai promis, Ciné-Parole, c'est donc le 16 octobre prochain, donc mardi prochain.
À
l'ABC, donc Cinéma d'art et d'essai à Toulouse, 2 séances, 14h30 et 20h30, c'était donc pour Nos Batailles, où on retrouvera donc l'un et l'autre pour lecture et commentaire, visionnage et commentaire de ce film.
Thank you.
plaisance. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, donc l'émission de ce matin, émission cinéma, avec, pour rappel pour ceux qui nous prendraient en cours de route, Paul Dima, voilà, et Louis-Marie Solaire, tous deux, entre autres, donc animateurs du Ciné-Parole, ce ciné-débat mensuel qui est proposé au cinéma L'ABC, cinéma d'arrêt d'essai, dans la Ville Rose. Dernier film, donc, Les Onze Fioretti de François d'Assise, film de Rossellini, sorti en 1950, un petit peu plus tôt que celui qu'on a vu, qui non pas retrace l'histoire de ces saints immenses de l'histoire de l'Église, des chrétiens même, hein, mais qui est comme une fenêtre donc, de ce qu'on appelle les Fioretti. Alors les Fioretti, c'est, comment résumer ça, voilà, je ne retrouve plus la traduction de l'italien. Les Fioretti, c'est comme des, voilà, des petits des faits qui disent la grâce et la beauté d'une vie, on va dire. On va résumer ça comme ça. Donc film italien, comment introduire ce film? C'est donc François d'Assise et ses disciples, c'est le début de la vie de saint François d'Assise, donc on est au XIIIe siècle, donc ce fils d'un riche marchand d'Assise qui, après, on va dire, différents événements dans sa vie, entre autres une longue maladie, se convertit et qui derrière fait des premiers disciples. Reconnu ou soutenu par le pape de l'époque. C'est donc une bande de vagabonds, en fait, hein, pieds nus, avec une bure grise, et qui sont dans la campagne et qui vivent, on va dire, comme des fous de Dieu. Comment vous introduiriez, Paul Dima, ce film? Peut-être par la première scène, c'est ce que vous disiez en préparant l'émission.
La première séquence,
c'est... ces hommes.
C'est 11 petits tableaux, on pourrait dire ça comme ça, comme les fresques de Giotto, qui ne prétendent pas faire l'histoire, mais qui racontent des moments, voilà, qui n'ont pas de rapport de continuité les uns avec les autres. Et le premier tableau, c'est on voit une bande de moines sous la pluie, dans la boue.
Pluie battante, oui.
Sous la pluie battante, piétinant dans la boue, et on ne sait pas où est François. Rien ne permet de le reconnaître, il n'est pas nommé.
Ils ont une conversation surréaliste pour des gens qui sont sous une pluie battante.
Absolument, oui. Alors,
on parle de l'amour, de la grâce.
En complet décalage. Donc là, c'est des hommes de religion, des terriens, au plus près de leur condition terrestre, des êtres parmi les autres hommes. Ce n'est pas des saints, c'est des religieux qui pataugent dans la boue.
Voilà, Fioretti, c'est Petite Fleur. On va écouter un premier extrait. C'est justement au début de ce film. Ça n'est pas un Fioretti. Ils sont sous une pluie battante. Ils retrouvent une cabane qu'ils ont construite, puisque ces hommes, évidemment, ont tout lâché. Donc, ils vivent le vœu de pauvreté, on va dire, absolue, hein, puisque François d'Assise avait fait le vœu d'épouser Dame Pauvreté. C'est ce qu'on appelle donc les ordres mendiants. Et donc, ils rentrent dans cette cabane. Et ils trouvent un homme dans cette cabane alors qu'ils sont sous une pluie battante et ils sont donc une bonne dizaine.
Bonsoir mon ami. Qu'est-ce que c'est? Qui voulez-vous?
Mon frère, nous devons maintenant reposer un peu nos corps fatigués.
Je veux d'abord m'occuper de faire entrer mon âne. Après ça, je m'occuperai de vos corps, soyez tranquilles.
Mais nous avons construit cette cabane de nos propres mains.
Peut-être, mais elle me convient.
Nous nous arrangerons pour ne pas vous gêner.
Nous serons tout petits.
Dehors!
Oh, ce n'est pas charitable.
Non, ce n'est pas charitable.
Dehors! Dehors, assez discuté comme ça. Dehors! Vous allez avoir affaire à moi si vous continuez à m'ennuyer. Dehors! Sortez, bande de voleurs, je suis ici chez moi. Alors, vous entendez ce que je vous dis?
Venez, Matteo, Bernard, Léon. Allons, venez, cher Roby, venez.
Et maintenant, où allons-nous?
Ayez confiance, laissez-vous guider.
Qu'allons-nous devenir? Il fait froid.
Vous ne trouvez pas que nos cœurs ont maintenant une raison de se réjouir? C'est la première fois que la Providence nous donne l'occasion d'être utile aux autres.
Qu'est-ce qui vous a contrarié?
Mon frère, j'ai eu tort d'avoir abusé ainsi de votre obéissance. Bernard, viens ici. Bernard, je t'ordonne par la sainte obéissance de faire tout ce que je te demanderai.
Je suis tout prêt à vous obéir entièrement à une condition. Promettez-moi vous aussi de faire ce que je vous demanderai.
Bon, je ferai ce que tu voudras.
Ordonnez, mon frère. Que désirez-vous que je fasse?
Je te donne l'ordre par la sainte obéissance, pour me punir de mon orgueil insensé quand je serai étendu sur le sol, de me poser un pied sur la bouche et l'autre sur le cou, et de me piétiner ainsi trois fois de suite en disant « Couche-toi, malheureux, et humilie-toi, fils indigne de Pietro Bernardone. Où as-tu puisé tant d'orgueil pour imposer à tes compagnons une pénitence aussi cruelle ?» La joie que tu lis sur nos visages est la plus belle réponse que tu puisses donner au Seigneur.
Aujourd'hui, nous commençons réellement à aimer notre vocation. Nous venons de comprendre qu'en te suivant, nous suivons Dieu.
Merci, mes chers enfants. Merci. Le Seigneur est bon, toujours bon pour moi.
Donc François d'Assise et ses disciples ou ses frères qui après chantent sous la pluie et qui se réchauffent ainsi. Pour commencer, avant qu'on rentre dans qu'on passe d'autres extraits et qu'on parle plus avant du film, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu difficile, c'est que c'est un tel géant de l'histoire du christianisme, François, qu'on peut regarder ça comme c'est difficile de rentrer dans une telle folie, en fait, une telle folie d'amour. Je ne sais pas si on peut le regarder un peu de l'extérieur. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, l'un ou l'autre, Paul Dima, peut-être pour commencer?
Oui, mais alors justement, c'est ce que nous propose Roberto Rossellini. Il nous met d'emblée au cœur de ce défi. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de circonvolution, de discours, de choses comme ça. Il place au cœur de quelque chose. On dit, mais ça n'a pas de sens de faire comme ça. Eh ben si. Voilà. Et toute la pédagogie de François avec ses frères, alors là, on peut dire, mais c'est quoi de vouloir s'humilier de cette façon-là? C'est aussi, ça peut être un orgueil terrible. Mais le frère a dit, ben, quand je vois la joie de ton visage, merci, j'ai la réponse à la question. Et je veux dire que ça passe pas par des discours, ça passe pas par... Ça passe par des actes un peu fous. Un peu fous, mais parce que l'amour est un peu fou.
Alors, Léon Fioretti, ce ne sont quasiment que des actes fous. Louis-Marie Soler.
C'est la forme qu'a choisi Rossellini. C'est sénette, ces petites histoires, ces 11 Fioretti. Ça aussi qui fait la force du film, parce que ce qui aurait pu être pesant ne l'est pas. Ce qu'il montre...
C'est sûr que faire une biographie en 2 heures de François d'Assise...
Oui, le film est court. Alors on pourra reprocher que La fraîcheur des moines peut faire sourire, mais elle emporte l'adhésion, quoi qu'il en soit, parce que le style de Rossellini est magnifique. Il faut se remettre dans la vie de Rossellini à ce moment-là. Il vient de tourner Stromboli, et c'était un film torturé, enfin le tournage a été difficile, et il vit une histoire d'amour tumultueuse. Il vient de rencontrer Ingrid Bergman, qui sera sa compagne pendant 10 ans, mais il faut penser que lui était marié, et Ingrid Bergman aussi. Donc on a tiré sur Rossellini à boulet rouge, sur Ingrid Bergman aussi. Et il fait ce film, et ce film-là, Les 11 Fioretti, est remarquablement apaisé. Il est dans un moment de sa vie particulièrement bouillonnant, et il fait ça et il fait quelque chose qui précède les grands films que fera Pasolini, en particulier l'Évangile selon saint Matthieu, qui viendra un peu après.
En 2-3 mots, Rossellini, peut-être, est-ce que vous pouvez nous situer davantage?
Rossellini, c'est, alors pour utiliser une image, c'est le pape du néoréalisme. C'est lui qui en a défini les contours.
Donc ce cinéma italien qu'a présenté tout à l'heure Paul Dima, c'est ça? C'est...
Exactement. Et alors c'est beau, c'est comment dire, accidentel qu'on a choisi les deux films. On n'a pas fait attention à ça. On a pensé au film même sans penser que l'un, Fellini, marquait la fin du néoréalisme avec la Strada, et que Rossellini, lui, c'était le néoréalisme. Cette façon de tourner, de choisir des acteurs non professionnels, parce qu'il a noté que dans ce film, il y a des franciscains qui jouent leur propre rôle. C'est ça qui est important.
Et la plupart
aussi.
Des acteurs sont non professionnels.
Et pour les raisons évoquées par Paul Dima, qui parlait du néo-réalisme italien. C'est ça, on mettait la caméra dehors. Faut dire qu'ils n'avaient plus de studio non plus. Oui. Hein, tout était cassé. Donc, il n'y avait pas moyen d'aller trouver un studio. Mais bon, c'était comme ça.
Alors, on va écouter un deuxième extrait. Donc c'est un des Fioretti, je ne sais plus lequel est-ce, quel tableau, qui dit ou qui illustre aussi ces fous de Dieu, ces apôtres, qui sont, on va dire... des chantres de la non-violence. Hein, ils vivent comme ça dans la nature. Ils essayent de vivre de la mendicité ou de leur travail. Enfin, les deux, parce que François tenait à ce qu'il travaille. Mais souvent, il redonne tout aux plus pauvres. Bref, il y a deux phrases qui reviennent souvent. C'est paix, joie. Certains ont l'impression que c'est vraiment juste des illuminés. Il y en a un qui part en mission, comme ça, qui part pour évangéliser et qui finit par rencontrer un camp de soldats voilà, qui tient un siège avec un tyran à leur tête. Et il commence à se faire malmené, frappé, etc. Et l'extrait commence quand il est en haut d'une échelle. Et après, on aura quelques mots sur la discussion du tyran à son sujet.
Mon Dieu, je vous remercie. Parce qu'enfin, je viens de comprendre que c'est pas avec des paroles, mais que c'est par l'exemple que l'on peut gagner des âmes.
Rien, il s'amuse.
Il doit y avoir quelque chose d'autre.
Et avec cette haleine, il répare ses sandales.
Mais j'ai reçu un message m'annonçant qu'il viendrait à Viterbo.
Monseigneur, Monseigneur. Oh, Nicolas, écoute. Ces soldats vont commettre un crime affreux. Ils vont sûrement tuer un innocent.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux? Idiot, enlève-moi cette salade. Allez, baisse-toi.
Fais-moi ça. De quel innocent me parles-tu?
Ce pauvre homme que tu as condamné à mort.
Ce bandit est venu pour me tuer. Tu veux que je lui fasse grâce? Idiot. Idiot, montre à l'abbé ses outils.
Voyons. Ce sont ses outils de travail. Avec ce silex, il allume le feu. Et avec cette haleine, il répare ses sandales.
Mais j'ai reçu un message m'annonçant qu'il viendrait à Viterbo, un assassin habillé en moine mendiant, et que je le reconnaîtrais justement à ce qu'il aurait une haleine.
Voyons, Nicolas, ceux qui t'ont parlé ainsi espéraient t'inquiéter. Non, non, tu te trompes, je sais qui est ce moine. C'est le compagnon d'un pauvre et saint homme qui défend la Sainte Église, frère François, le fils de gens très riches. Il a tout donné aux pauvres. Il habite dans les bois avec quelques compagnons. Il vit libre comme un oiseau. Beaucoup de gens le suivent parce qu'il aime et qu'il secourt les plus humbles.
Celui qui méprise le monde a le cœur rempli de haine et d'envie. Aussi, ce garçon est sûrement dangereux.
Ce que tu dis est insensé. Écoute un instant. Sais-tu ce que dit Aristote à ce sujet? Celui qui vit seul et méprise le monde le fait pour se protéger de la douleur. Par conséquent...
Oui, moi aussi, je connais le monde. Et je sais que les prétendus moines sont tous des bandits. Ils prêchent d'abord la pauvreté pour ensuite voler et égorger.
Oh, non. J'ai toujours entendu dire qu'ils refusent tous les dons. Et qu'ils sont incapables de faire le mal, même à une mouche.
Alors, attends. Amenez-le-moi. Je veux l'interroger moi-même.
Voilà, donc cet extrait, c'est pas, enfin, ça va se suivre par un face-à-face, donc entre ce frère qui fait face donc à ce tyran. Ça fait penser aussi à la démarche de saint François d'Assise, qui lors des croisades, lors d'une des croisades, en fait, a été jusqu'à rencontrer le sultan adverse. Hein, c'est comme si aujourd'hui on avait un prêtre ou un religieux qui était allé voir on va dire l'émir de Daesh, hein, pour lui prêcher l'amour, la réconciliation et la paix. Hein. Faut quand même se situer. Ce que cet homme a fait, et alors raconter peut-être cette scène extraordinaire entre ce frère et ce tyran, Paul Dima.
Oui, alors après, il n'y a plus de paroles dans la confrontation.
C'est pour
entre
ça qu'on l'a pas mis.
Le tyran et le frère, mais on voit que ce tyran qui se croit tout puissant parce qu'il est fort, il est violent, il gueule et tout ça, et que le frère qui est en face se laisse faire. Se laisse malmener. Alors là, on voit bien sûr qu'il y a une figure christique, c'est-à-dire que vous citiez Edgar Morin tout à l'heure.
René Girard.
René Girard, pardon. Il ne répond pas à la violence par la violence, mais il casse la violence en prenant sur lui celui qui croit pouvoir dominer par la violence et qui tout d'un coup se trouve désarmé parce qu'il voit que sa violence n'a aucun effet. Et donc c'est très très fort. Et celui qui plaide un peu la cause de ce pauvre frère qui va passer un mauvais quart d'heure dit mais non, c'est pas un espion, c'est pas quelqu'un qui veut du mal. Et le tyran répond non, mais je sais bien moi qu'il vient là, c'est pour voler, c'est pour m'atteindre moi, etc. C'est-à-dire que celui qui est en position de pouvoir, il a toujours les raisons de dire celui-là, faut que je l'élimine parce qu'il est dangereux pour moi.
Et alors, de fait, ce que je trouve, enfin, pardon, j'y pense en vous écoutant, ce qui est assez frappant, c'est que la sainteté, en fait, c'est très difficile de parler de la sainteté, même si là, de fait, François n'est pas encore saint dans le film. Mais là, en fait, on voit des actes, voilà. C'est des actes fous, mais qui provoquent une onde, en fait, une onde inhabituelle de paix, de joie, de réconciliation.
Il y a un autre Fioretti qui est très beau aussi, c'est quand François rencontre le lépreux. Et là, dans cette atmosphère crépusculaire, il embrasse le lépreux. Et c'est là aussi très beau. Il faut dire que la photographie est somptueuse aussi. On parle à la fois de ce qu'il montre et la façon dont il le montre. C'est remarquable. C'est du grand cinéma.
On va écouter un dernier extrait, donc parce qu'on ne s'en lasse pas, qui parle de la joie parfaite. C'est un autre Fioretti de la vie de Saint-François d'Assise.
Fais-nous la charité, mon frère. Nous sommes de pauvres moines qui voyageons pour sauver des âmes.
Michel Gore.
Écoute-nous, mon frère. Nous te donnerons le moyen de servir Jésus-Christ.
Accepte de servir Jésus-Christ avec nous.
Viens prier Jésus-Christ avec nous.
Il n'est pas le plus grand bonheur ici-bas.
Mais pourquoi ne veux-tu pas servir notre Seigneur Jésus-Christ?
Viens servir Jésus-Christ avec nous. Sortez d'ici tout de suite, brigand. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos imbécilités. Mon frère, fais-nous la charité.
Frère, écoute-nous. Serre Jésus-Christ avec nous.
Serre Jésus-Christ et loue-le avec nous.
Vous allez voir si je vais servir Jésus. Hors d'ici, copain. Hors d'ici, sale voleur. Ah, je vous dis, sortez.
Filez.
Ah, toi aussi dehors. Filez. Vous allez voir ce qui vous attend, espèce d'entêté. Dehors, mais dehors, fouille bon. Ah, dehors, vagabond. Dehors, vous entendez? Dehors. Tenez, la voilà ma charité. Vous voyez, je suis généreux, en coup de bâton. Vous allez en recevoir plus que vous n'en voudrez. Tenez la charité. Ah, vous voulez la charité? Eh bien, vous êtes servi, prenez ça, allez. Prenez encore ça. Vous êtes content? Ah, je vais être bon, là, prenez tout le monde. Tiens. Tiens, mais... c'est pour toi celui-là. Oh. Et si vous en voulez d'autres, il y en a. Ça vous apprendra à venir déranger les honnêtes gens.
Oh, frère Léon, petit agneau du Seigneur, puisque nous avons supporté tout cela pour l'amour du Christ, tu peux dire que nous avons trouvé maintenant la joie parfaite. Car parmi toutes les grâces que le Christ accorde à ceux qui le servent, se trouve celle de se vaincre soi-même et de supporter toutes les méchancetés pour l'amour de lui. Voilà ce qui est sur terre la joie parfaite.
Voilà, alors on n'expliquera pas la joie parfaite probablement par un simple commentaire, hein, parce que là, c'est sûr qu'on atteint peut-être des sommets de l'incompréhensible pour tout à chacun. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage peut-être moins connu de la vie de Saint-François d'Assise, qu'on imagine que pour le coup, celui-là peut-être a été vécu. Paul Dima, pour conclure cette émission.
C'est la radicalité de la parole évangélique qui est suivie pas intellectuellement, mais dans la vie très concrète. Ils se font jeter dehors et sans résister, sans opposer de violence. Alors on peut dire, mais c'est fou ça, ils se font massacrer. Oui, et c'est là que réside la joie parfaite, dit François. L'application de la parole évangélique, heureux serez-vous si on vous insulte, si on vous... voilà, c'est la béatitude. Le monde remis à l'endroit, mais perçu comme étant à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que ça vient casser toutes nos représentations, toutes nos façons habituelles de vivre. Et c'est là, François dit, voilà, où réside la joie parfaite.
Voilà, et c'est probablement ça, la sainteté, le monde à l'envers et en fait à l'endroit. Voilà, Nos batailles, La Strada et Léon Suretti de Saint-François d'Assise, trois films à voir. Rendez-vous est donné pour le premier qui est à l'affiche, donc le 16 octobre prochain, deux séances à 14h30 et 20h30, donc avec le Ciné-Parole au cinéma L'ABC à Toulouse. Merci beaucoup à nos deux messieurs cinéma d'être venus.
Et, merci à vous,
vivement, avec plaisir.
Vivement à dans un mois et allez donc au cinéma. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.